France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction et vous, Thomas Cluzel, rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La situation en Iran reste pour l'heure extrêmement précaire et périlleuse. Il est encore trop tôt, bien entendu, pour savoir si cette deuxième guerre contre la République islamique en l'espace d'un mois, en l'espace de moins d'un an, sera le dernier acte de la grande reconfiguration à l'œuvre au Moyen-Orient. Nous y consacrerons bien sûr l'essentiel de ce journal. Pour l'heure, chaque camp semble surtout afficher sa détermination à poursuivre les hostilités. Faut-il craindre un embrasement général de la région? Quelles conséquences également à plus grande échelle, s'agissant par exemple de la Chine, mais aussi de la France? Et puis entre scènes de liesse pour les uns et de deuil pour les autres, l'Iran entre dans une phase de profonde incertitude où se joue à la fois la survie de la République islamique et la recomposition de ses équilibres internes. On en parlera également avec notre invité. Au troisième jour de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran, il reste encore aujourd'hui décidément plus de questions que de réponses à propos de ce moment potentiellement historique. En Iran, tout d'abord, une révolte de la population peut-elle conduire à un véritable coup d'État? Est-ce que des factions modérées du régime actuel et des forces d'opposition sont susceptibles de s'emparer ensemble des leviers du pouvoir? L'armée peut-elle finir par l'emporter sur les gardiens de la révolution affaiblie, à moins que les mollahs ne parient sur un désintérêt progressif de Washington? Entendu qu'il n'y aura sans doute pas d'invasion de leur pays par les États-Unis. La survie du régime de Téhéran est en jeu et les ayatollahs le savent bien, eux qui ont déjà considérablement resserré leur emprise, d'une part en fermant le détroit d'Hormuz, mesure inédite à l'époque moderne, et d'autre part en bombardant tous azimuts les pétro-monarchies arabes. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, des bombardements massifs ont à nouveau ciblé l'Iran. Par ailleurs, le conflit s'étend désormais au Liban, où Israël a mené la nuit dernière des frappes après des tirs du Hezbollah contre son territoire. Et puis de nouvelles frappes iraniennes ont été menées contre des pays du Golfe. Ce matin, Étienne, c'est une installation stratégique saoudienne qui a dû partiellement fermer.
Oui, la raffinerie géante de Ras Tanura est prise ce matin dans un gigantesque nuage de fumée. Le site a été victime d'un incendie qui aurait depuis été maîtrisé. Il a été touché par les débris de deux drones interceptés. C'est l'une des plus importantes raffineries de la région. Ce matin, les habitants de Dubaï, Abu Dhabi, Doha, Manama se sont réveillés au bruit des détonations. Des explosions ont aussi été entendues près de l'aéroport d'Erbil, au Kurdistan irakien. Et un travailleur asiatique a été tué dans la chute de débris sur un bateau à Bahreïn. Des intérêts américains ont aussi été visés. Au Koweït, une épaisse fumée noire s'échappe du secteur de l'ambassade des États-Unis dans le pays. Plusieurs avions de combat se sont aussi écrasés, d'après le ministère koweïtien de la Défense. On voit des images sur CNN. Un F-15 tombe comme une feuille dans le secteur d'une base américaine. Tous les membres d'équipage auraient survécu.
Et comment expliquer, Étienne, cette stratégie de la terre brûlée adoptée par l'Iran vis-à-vis de ses voisins régionaux? Y a-t-il véritablement un risque d'embrasement de toute la région?
Le régime est entré dans une guerre existentielle. Il est soupçonné de vouloir pousser ses voisins à faire pression sur Donald Trump pour obtenir la fin de l'offensive. Il utilise aussi sans doute ses réserves de missiles à courte portée qui n'ont pas servi en juin dernier contre Israël. Le scénario d'un embrasement régional est par contre redouté par les pays du Golfe. Leur prospérité repose sur la stabilité. Pour l'heure, les monarchies tentent de s'accorder sur la stratégie à suivre. Elles ont essentiellement pris des mesures diplomatiques.
Merci Étienne Monin. Alors avec ces puissantes frappes aériennes de part et d'autre, on le voit, la panique n'a pas tardé à gagner partout la région. 9 personnes ont été tuées dans le centre d'Israël. 3 autres Émirats ont dénombré également un mort au Koweït. De leur côté, les États-Unis ont annoncé la disparition de 3 de leurs militaires tués au combat. Au Pakistan, là-bas, ce sont au moins 17 personnes qui sont mortes hier dans des manifestations en faveur de l'Iran. Enfin, ce matin, le Croissant Rouge iranien a affirmé qu'un total d'un demi-millier de personnes avaient déjà perdu la vie à travers tout le pays depuis le déclenchement de la guerre. Et si jusqu'à présent, l'hostilité vis-à-vis des États-Unis comme d'Israël fournissait les arguments nécessaires au régime des mollahs pour instrumentaliser des sujets de politique étrangère et les mettre au service de la politique intérieure, comprenez garantir une forme d'unité nationale, qu'en sera-t-il aujourd'hui après la mort du guide suprême Ali Khamenei? Est-ce que cette campagne de bombardement est susceptible de conduire véritablement à un changement de régime en Iran, ou à tout le moins à modifier les équilibres internes de 47 années d'une théocratie dont la répression fut l'arme de survie? Le couple américano-israélien peut-il aujourd'hui contraindre Téhéran à changer de trajectoire soit en clair accepter une forme de capitulation ou être renversé de l'intérieur pour tenter de répondre à toutes ces questions. Invité de la rédaction, aujourd'hui Jean-Vincent Olyndre, professeur de sciences politiques à l'université Paris-Panthéon Assas, directeur du centre Thucydide. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Dès son tout premier message vidéo diffusé donc après le déclenchement de l'attaque contre l'Iran samedi dernier, Donald Trump a interpellé le peuple iranien pour l'enjoindre à, je cite, « s'emparer du pouvoir ». Ce qui a poussé plusieurs analystes à voir dans cette attaque le retour de la tentation du regime change aux États-Unis qu'on avait déjà entendu d'ailleurs après l'intervention américaine au Venezuela. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que recouvre cette doctrine du changement de régime en bon français ?
L'idée, c'est qu'un pays, en l'occurrence les États-Unis, peut intervenir dans un autre pays souverain pour modifier la donne politique, changer le régime. Dans le cas des États-Unis vis-à-vis de l'Iran, c'est une vieille histoire depuis les années 50 et l'opération Ajax qui a conduit au fait de déposer le premier ministre de l'époque au profit de la famille Pahlavi. Et donc, on voit que c'est une vieille question dans le cas de l'Iran et dans le cas général pour les États-Unis qui entendent façonner l'ordre international.
Aujourd'hui, sans doute que l'espoir est de voir à terme l'émergence effectivement d'un Iran démocratique avec un rôle régional apaisé. Pour autant, on ne peut pas écarter la crainte d'assister au chaos que fut la situation irakienne après le renversement de Saddam Hussein. On pourrait également citer en exemple l'Afghanistan, d'autant plus d'ailleurs que s'agissant de ces deux pays, les attaques américaines s'étaient accompagnées d'un plan pour administrer le pays avec la volonté de mettre en place donc une transition de régime sur place, ce qui n'est pas le cas avec l'Iran.
Oui, là, on a une combinaison assez étrange entre, d'un côté, le fait de retrouver cette logique du changement de régime, le fait d'inciter à ce que ce régime meurtrier disparaisse, mais en même temps, Trump exclut pour le moment l'idée d'intervention au sol, ou alors éventuellement par des services secrets ou par alliés interposés, et encourage le peuple à se rebeller, ou en tout cas à continuer la rébellion qui a commencé, considérant qu'en effet, tout changement de régime, c'est une des leçons qu'on a pu tirer de l'Irak et de l'Afghanistan, ne peut s'opérer qu'avec, disons, une implication forte et même, je dirais, une prise d'initiative de la population qu'on a déjà pu observer à travers les manifestations qui ont été durement réprimées et ce qui a conduit d'ailleurs Trump à intervenir. Il faut se souvenir que Obama a exprimé dans ses mémoires, le président Obama, un regret par rapport à l'Iran. En 2009, il aurait pu à un moment donné soutenir la population. Il l'a pas fait, il a exprimé un regret. Et donc Trump essaye en quelque sorte de jouer le beau rôle en disant ce que Obama n'a pas fait, ce que les présidents n'ont pas fait depuis 47 ans, moi je vais le faire.
Ce refus d'une opération au sol renvoie aussi sans doute à l'enlisement de la présence militaire américaine en Irak, en Afghanistan. Et puis, est-ce que cette différence peut être liée aussi à une évolution dans la façon de faire la guerre où l'envoi de troupes au sol occupe une place finalement moins importante, peut-être aujourd'hui au profit de bombardements ou de l'utilisation de drones ?
Oui, mais pour le coup, il y a énormément de travaux qui ont montré que bombarder pour vaincre, c'est largement insuffisant. On a en réalité, la guerre en Ukraine est là pour le montrer, c'est-à-dire qu'on a au contraire une guerre qui est au sol, qui certes ne donne pas de résultats aujourd'hui très clairs, mais la guerre, c'est quand même ça, c'est quand même l'affrontement d'êtres humains. Or, Trump ne peut pas engager des troupes au sol, puisque précisément, il s'est engagé à ne pas aller dans l'aventurisme militaire qui a été celui de George W. Bush. Donc on est face à une contradiction où d'un côté il veut faire ce que les précédents présidents n'ont pas fait, sans en quelque sorte assumer pleinement et en disant finalement que c'est le rôle de l'Iran. Donc il y a une combinaison en fait entre George W. Bush, le côté interventionniste, la volonté de façonner l'ordre mondial, et puis le regret exprimé par Obama, mais qui en même temps, Obama était ouvertement contre les interventions. Donc c'est une sorte de position assez étrange, médiane, mais dont on peut se demander si elle est véritablement réfléchie.
Bombarder, c'est insuffisant, disiez-vous. Malgré tout, est-ce que ça veut dire que, comme certains, il faudrait, selon vous, changer l'expression et ne plus parler de changement de régime, mais bien de destruction de régime ?
En l'espèce, c'est ce qu'on a observé depuis plusieurs dizaines d'années s'agissant des interventions militaires. C'est-à-dire des régimes qui ont été détruits, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye. Si on regarde la Libye ou l'Irak aujourd'hui, on peut pas dire que ce soit des régimes véritablement reconstruits. Dans le cas des talibans, eh bien, ils ont retrouvé un pouvoir qu'ils avaient perdu. Donc, c'est l'objectif des changements de régime, c'est quand même d'arriver à des régimes, sinon démocratiques, du moins plus stables, et qui permettent en quelque sorte une sorte de sécurisation de l'ordre international. Or, on peut pas considérer que les interventions militaires, des dernières années, se sont soldées par un apaisement des relations internationales. Au contraire, on observe une logique de puissance désinhibée avec une sorte de cercle vicieux qui fait penser ou qui fait craindre un embrasement régional voire mondial.
Et on terminera par ces mots. Merci Jean-Vincent Olinde, professeur donc de sciences politiques à l'université Paris-Panthéon-Assas, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation. Alors si Donald Trump a pour habitude de privilégier généralement des frappes militaires qui ne comportent pas véritablement de risque majeur pour son pays et réduisent le risque d'un conflit au long cours, le fait que Téhéran ait choisi cette fois-ci de riposter par une guerre totale interroge. N'oublions pas que le président américain, notre invité le rappelait à l'instant, a été élu sur la promesse de retirer les États-Unis des théâtres de conflits internationaux, surtout de mettre fin aux guerres et non pas de les déclencher. Or, depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a déjà frappé 7 pays quand le président autoproclamé de la paix ne cesse en réalité de bombarder. De l'intérêt de revenir à l'objectif final visé par Washington à travers cette nouvelle opération, au-delà de la question du nucléaire iranien et éventuellement du changement de régime, il semble bien que les États-Unis cherchent ici à affaiblir en réalité leur seul véritable adversaire de taille pour les prochaines décennies. J'ai nommé la Chine. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Correspondant de France Culture à Pékin ce matin, la Chine qui fait partie d'ailleurs avec la Russie des plus proches alliés de l'Iran a une nouvelle fois condamné cette opération militaire, réitéré son appel urgent à un cessez-le-feu. La Chine qui s'inquiète surtout des conséquences possibles de cette guerre pour son économie et notamment, Sébastien, s'agissant de son approvisionnement en pétrole.
Et oui, ici à Pékin, on est évidemment conscient que cette nouvelle guerre va renforcer la vulnérabilité de la Chine sur les questions énergétiques, tout simplement parce que Pékin est le premier importateur mondial de pétrole et que plus de 40% du brut acheté par les Chinois transite par le détroit d'Ormuz, désormais devenu difficilement praticable. La Chine qui redoute aussi avec ce conflit de perdre l'un de ses plus gros fournisseurs, l'Iran qui vend aux Chinois près de 100% de ses exportations. C'est un pétrole qui est bon marché et qui permet de faire tourner l'économie chinoise à moindre coût dans une période de croissance ralentie. La Chine a mis pour cela en place des circuits parallèles qui permettent d'acheter le brut iranien malgré les sanctions internationales. Alors le risque est plutôt à moyen terme qu'à court terme parce que dans l'immédiat, la Chine est protégée par d'importantes réserves de pétrole. Près de 50 millions de barils de brut iraniens sont notamment entreposés dans des navires au large des côtes chinoises. Mais tout cela survient à un mauvais moment pour le régime communiste qui fait sa rentrée politique cette semaine avec la réunion des deux assemblées du Parlement chinois. Le Premier ministre Li Qiang doit officiellement dévoiler jeudi les objectifs de croissance de la Chine pour 2026 et il devra certainement tenir compte dans ses prévisions de cette nouvelle guerre au Moyen-Orient.
Merci Sébastien Berriot en direct de Pékin. Alors avec ce séisme mondial, revoilà le monde devenu un otage impuissant de la dangereuse imprévisibilité du président américain, lequel s'est engagé dans une voie téméraire aux objectifs flous tout en piétinant une fois de plus le droit international. Et c'est ainsi que ce matin était organisée une réunion de crise au Quai d'Orsay, présidée par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Isabelle Labéry, bonjour.
Bonjour.
Au programme de cette réunion, il a été question notamment de la situation des agents français ainsi que celle des ressortissants, mais pas seulement, puisque a également été abordée la situation politique et sécuritaire au Moyen-Orient. Et à ce titre, Isabelle, la France a tenu à exprimer son soutien entier aux pays alliés ciblés par l'Iran et se dit prête même à participer à leur défense.
Ah oui, dès hier soir, dans un communiqué commun, Paris, Berlin et Londres se disaient prêts à des actions défensives. Jean-Noël Barrot enfonce le clou.
Aux pays amis qui ont été ciblés délibérément par les missiles et les drones des gardiens de la Révolution et entraînés dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisie, la France exprime son soutien entier et sa pleine solidarité. Elle se tient prête, conformément aux accords qui la lient à ses partenaires et aux principes de légitime défense collective prévus par le droit international, à participer à leur défense.
Et c'est avec les Émirats arabes unis que Paris a signé son accord de sécurité le plus important, qui prévoit bien une clause d'assistance en cas d'agression. Seul pays du Golfe où la France dispose d'infrastructures permanentes avec environ 900 soldats, un camp d'entraînement, un détachement aérien et une base navale, celle-là même qui a été visée hier dans une attaque de drone. Difficile de rester spectateur donc, même si la désescalade fait toujours partie de nos priorités, affirme Jean-Noël Barrot, qui ajoute « La prolongation indéfinie des opérations militaires sans but précis emporte le risque d'une instabilité pour l'Iran et la région. Pour l'Europe aussi », aurait pu ajouter le ministre. Chaque fois que les États-Unis ont lancé d'aventureuses opérations militaires en Afghanistan, en Syrie ou en Irak, l'Europe en a fait l'expérience.
Merci Isabelle Labérie. Alors il se trouve que c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron doit lui exposer comment la dissuasion nucléaire française peut contribuer au renforcement de la sécurité en Europe, justement en particulier face à la brutalisation croissante du monde. Un enjeu bien entendu brusquement remis en lumière par cette offensive donc israélo-américaine. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Bruxelles. Alors le chef de l'État prendra la parole cet après-midi dans le sanctuaire de la dissuasion nucléaire française à l'île Longue qui abrite 4 sous-marins lanceurs d'engins pour leur rien infiltrer de ce que le président pourrait dire. Rappelons simplement que la France demeure avec le Royaume-Uni l'une des 2 seules puissances nucléaires d'Europe et que face à la pression de la Russie qui agite régulièrement la menace d'une confrontation nucléaire depuis le début de son invasion de l'Ukraine, eh bien, les doutes des Européens, Fabien, grandissent quant à la fiabilité de l'allié américain et de son parapluie nucléaire dans le cadre de l'OTAN.
Effectivement, il y a là 2 inquiétudes qui se croisent. Une européenne de voir les États-Unis de Donald Trump se désengager de la sécurité du continent et une autre française qui en découle, celle de voir un jour l'Union européenne attaquée. Emmanuel Macron ne ratant pas une occasion de rappeler qu'à ses yeux, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Cette réflexion sur la doctrine nucléaire française intervient au moment où un conflit majeur se déclenche justement au Moyen-Orient contre le régime iranien accusé depuis si longtemps de chercher à se doter de l'arme nucléaire, un graal de la menace et de la dissuasion dans un monde où les Européens cherchent à parler le langage de la puissance face aux visées expansionnistes de leurs encombrants voisins. Des coopérations spéciales en matière de nucléaire militaire pourraient l'y aider. Reste à savoir comment et avec qui. Des discussions sur le sujet sont lancés depuis l'année dernière avec l'Allemagne et la Pologne. Et enfin, à quel prix ? Car la France, si elle prend ce nouveau rôle auprès des Européens, compte bien en profiter pour gagner en poids et en influence au sein de l'Union.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles.
Midi et 47 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Ancien fleuron de Pechiney passé sous contrôle américain en 2021. Aluminium Bahrain pourrait changer d'actionnaire d'ici 2026. Le site Nordiste qui compte 750 salariés pourrait changer d'actionnaire l'an prochain, cette année. Même l'un des plus gros fondeurs de métal au monde est entré en négociation exclusive. Et dans cette opération, Annabelle Grelier, eh bien l'État français pourrait lui aussi entrer au capital.
Aluminium Dunkerque est la plus grande fonderie en Europe et elle va très bien, assure son président. Avec un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros pour un bénéfice net de 120 millions en 2024, elle attire même les convoitises de tous les géants du secteur, comme l'anglo-américain Rio Tinto, le suisse Glencore ou encore Emirates Global Aluminium. Mais c'est l'industriel Barini, Alba, qui semble le mieux positionné en annonçant ce matin être entré en négociation exclusive avec le fonds d'investissement américain AIP, le propriétaire depuis 2021 d'Aluminium Dunkerque. Le montant de l'opération reste confidentiel pour le moment, car elle doit encore être soumise à différents processus d'autorisation au niveau français et européen. Alerté par les syndicats en décembre dernier, Bercy dit en effet suivre le dossier de près au titre de la procédure de contrôle des investissements étrangers afin de préserver les intérêts économique français. Pour garder un droit de regard, l'État, à travers la Banque publique d'investissement, pourrait même entrer au capital. Le repreneur Barini n'y serait pas hostile, tout en assurant de son côté qu'il n'y aura pas d'impact sur l'emploi, que cette stratégie de rachat s'inscrit dans le long terme avec des investissements nécessaires à la décarbonation. Pour le moment, les syndicats d'aluminium Dunkerque n'ont pas encore réagi, l'opération n'est pas finalisée, elle mettra encore quelques mois pour aboutir.
Après 5 semaines de débats marqués notamment par des incidents procéduraux exceptionnels, mais plus encore par des témoignages de vie fracassés, écrasés de douleurs pour certains, encore tétanisés par la honte pour d'autres, c'est aujourd'hui que la Cour d'assises spéciale de Paris doit rendre son verdict au procès en appel des 4 hommes jugés pour leur rôle dans l'assassinat barbare de Samuel Paty. Puis, lui en cours jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, lui c'est Tariq Ramadan, jugé pour des viols commis sur 3 femmes en France entre 2009 et 2016. Le procès de l'islamologue suisse est ouvert ce matin devant la cour criminelle départementale de Paris. Rappelons que le prédicateur, figure contestée de l'islam européen, a déjà été condamné par la justice helvète pour un viol sur une autre femme, c'était en 2008. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, largement ensoleillé, même si le ciel se montrera parfois voilé, en particulier dans le sud-est et les régions centrales. Quant aux températures, elles seront comprises entre 11 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nina Malraie, et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.